Tarifs douaniers, guerre commerciale et inflation américaine, risque écarté ou risque reporté? Dans cette vidéo, chers amis, vous allez assister à, première partie, tarifs douaniers et inflation US, aucun impact au stade actuel sur les chiffres du mois de juin, même les prix à la production sont à 0% en croissance mensuelle, mais voilà, la date limite du 1er août est toujours là. D'autre part, les tarifs douaniers appliqués depuis avril sont le tarif de base à 10%, sauf certains secteurs. Alors pourquoi? Comment comprendre? Comment concrètement expliquer que pour le moment, cela ne se voit pas dans les chiffres de l'inflation, sauf peut-être certaines catégories de biens, mais qui ne pèsent pas beaucoup dans le calcul du total de l'inflation? Je reprends tout avec vous en détail, j'émets des hypothèses, et surtout, que peut-il se passer à partir du 1er août? Car oui, le 1er août, c'est la date finale, c'est la date définitive. Bon, peut-être une énième date définitive reportée, mais ça m'étonnerait. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on peut envisager à partir du mois d'août? Risque écarté ou risque reporté? Deuxième partie, eh bien, un peu de prospective. Lorsque nous allons connaître concrètement la valeur globale des tarifs douaniers US, ça va arriver, hein, d'ici le 1er août, tout le monde sera fixé. Et tous les autres pays avec lesquels les États-Unis ont une relation commerciale très limitée, vont avoir du 10 ou du 15%. Donc, grosso modo, tout le monde aura son tarif douanier, l'Union européenne, la Chine, l'Inde, le Japon et tous les pays du monde. Comment est-ce qu'on peut envisager l'impact sur l'inflation? Qu'est-ce que disent les économistes à ce sujet? Plus 0,2, plus 0,3, plus 0,4, c'est la deuxième partie. Troisième partie, bon, ce sujet de l'inflation, vous avez compris qu'il est central. Tant que Powell est à la tête de la Fed, c'est un sujet, on va en parler aussi, mais que nous disent actuellement les indicateurs avancés de l'inflation? Je les reprends tous avec vous. Attention, je vais être honnête, certains sont dans le rouge. Certaines catégories de biens ont leur taux d'inflation au plus haut depuis 7 ans. Heureusement, ça ne pèse pas grand-chose. Ils ont une toute petite part dans le calcul de l'inflation. Mais il faut être honnête, il y a des choses qui sont dans le rouge. Mais il y a aussi des leading indicators qui sont dans le vert. Quatrième partie, la baisse de taux de la Fed est-elle en danger pour le mois de septembre? Non, parce que juillet, la baisse de taux attendue de la Fed en septembre est-elle en danger? Jérôme Powell est-il en danger? D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo spéciale sur ce sujet il y a quelques semaines, ça ne change pas grand-chose. Jérôme Powell n'a qu'une voix au sein des 12 membres votants. Alors certes, le patron de la Fed a une influence sur les autres membres votants, mais d'ailleurs, d'après vous, est-ce que Jérôme Powell va se faire virer? Va-t-il démissionner face à la pression? Ira-t-il au bout de son mandat en mai 2026? Vous voyez vraiment l'administration Trump supporter sa présence jusqu'en mai 2026? La pression est maximale. Ce serait historique si jamais il démissionnait. Bon, n'en sommes pas là. Cinquième partie, attention au taux obligataire américain. On en parle un peu moins, mais attention, le One Big Beautiful Bill est passé. Bon, devant nous, c'est du dérapage budgétaire à gogo, de la dette publique en haut. Attention au taux obligataire US. Sixième partie, comme chaque semaine, point technique complet sur l'indice S&P 500. C'est parti. Avertissement légal, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, donc je vous retrouve pour la nouvelle édition du Top Gun. Je vous ai donné le plan. Non, voilà, vous avez compris le sujet, c'est ça. Le sujet est là. Je vais vous montrer dans un instant quelques illustrations pour vous montrer que ce soit l'inflation CPI, l'inflation PCE ou l'inflation PPI, et d'ailleurs de manière très étonnante pour le PPI, les prix à la production, lorsque vous regardez le taux d'inflation au rythme mensuel, c'est la meilleure façon de percevoir s'il y a un impact des tarifs douaniers ou pas, c'est l'inflation au rythme mensuel d'un mois à l'autre. Zéro. Pour le CPI, 0,2, cinquième mois consécutif inférieur aux attentes. Si vous voulez, c'est pas extraordinaire que l'inflation mensuelle soit inférieure aux attentes. Mais dans le contexte des tarifs douaniers depuis avril, ça c'est complètement étonnant. Les économistes, qui nous annoncent une envolée de l'inflation depuis quelques semaines, s'arrachent les cheveux. Je suis pas économiste. Hein. Pourquoi? Comment? Alors, certaines petites catégories de biens de consommation, de biens industriels, ont leur taux d'inflation au plus haut, directement impacté par les tarifs douaniers. Et heureusement, ils ne pèsent pas grand-chose dans le calcul mathématique des taux d'inflation. Mais tout de même, comment expliquer? Alors, il y a plein d'explications à ça, donc je vais être précis. Et vous allez voir que c'est le sujet de la vidéo. Risque écarté ou risque reporté. Si le risque est écarté, la Fed n'aura pas de souci à pivoter et à passer les deux baisses de taux d'ici la fin de l'année, qu'elle nous avait d'ailleurs garantie. D'ailleurs, on l'oublie souvent, hein, que la Fed envisageait de baisser deux fois ses taux, même si l'inflation n'était pas à 2%. Je vais vous remontrer ses objectifs macro. Mais surtout, qu'est-ce qui va se passer à partir du 1er août, lorsque la réalité des nouveaux tarifs douaniers va arriver? Et tout le monde sait que ce n'est pas 10% pour tout le monde. La plupart des partenaires commerciaux décisifs, ils vont se manger du 20 ou du 30. Là, ça change. Bon. En tout cas, si le risque est reporté, ça peut justifier l'attentisme de la Fed. Sauf si quelque chose change au sein de la gouvernance du FOMC. Sauf si quelqu'un est poussé à la porte, quelqu'un craque, ou s'accroche à son poste, ou est démissionné, est viré, bon, pour une raison autour de laquelle on tricoterait pour faire croire que c'est une raison de faute grave. Mais bon, et, vous savez, les marchés ne vont pas du tout apprécier, il n'y a pas de précédent. Si un président des États-Unis vire un patron de la Fed est indépendante. Ça rassure les marchés financiers, cette indépendance de la Fed. Du pouvoir monétaire par rapport au pouvoir budgétaire, du pouvoir monétaire par rapport aux hommes politiques. Et ça, l'administration Trump l'a bien compris. Donc, ils ne vont pas virer Powell, sauf vraiment si craquage, mais lui mettre une pression suffisante pour l'amener peut-être de lui à partir avant la fin de son mandat. Ou peut-être, d'ici là, nommer quelqu'un qui prendrait sa place à partir du printemps 2026 et qui commencerait déjà à exercer une influence sur les autres membres. Vous voyez, il y a plein de façons de faire. Je rappelle que tout le monde a une voix au sein du FOMC. Au sein des 12 membres votants, chacun a une voix. Powell n'a même pas le droit de veto. Enfin voilà. Bon, bah écoutez, trêve de blabla, on attaque.
Abracadabra. Abracadabra. Et boum.
Voilà, parfait, impeccable. Là, c'est bien comme ça, vous voyez le plan. Donc, le plan, je vous l'ai donné à l'instant. Il s'affiche ici à l'écrit. Et puis, comme je vous l'ai dit, bah écoutez, le temps. Passons à la première partie. Alors, c'est là où il faut essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Tarifs douaniers et seconde vague d'inflation US, alors bien sûr, il n'y en a pas. Au grand dam, hein, des... Il la souhaite, non, parce qu'il y a... C'est une personnalité, ça. Le collapsologue, si vous voulez, a besoin, le matin au réveil, de lire des news négatives, de dire, ah, je vous l'avais dit, pourquoi, en fait, pourquoi? Parce que beaucoup, il y a une certaine personnalité, de gens qui veulent rien entreprendre dans leur vie, rien faire, et qui vont être jaloux des gens qui font des choses. Et donc, vont chercher tous les moyens pour se convaincre que ça sert à rien puisque tout va s'effondrer. C'est ça, en fait. Donc, la bourse, ça sert à rien puisqu'une seconde vague d'inflation arrive et qu'elle va tout mettre au tapis. Alors, vous aurez peut-être raison, on y revient. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et c'est même extrêmement étonnant. D'où la question de cette vidéo. Risque écarté ou risque reporté? Alors, faisons un état de lieu. Rappelle que depuis le mois d'avril, vous avez quand même des tarifs pour certains secteurs qui sont de 20-30%, et sinon, il y a 10% pour tout le monde. Faut oublier ça, il y a actuellement 10% pour tout le monde. Donc on aurait pu s'attendre déjà à un début d'impact dans les trois mesures de l'inflation que sont le PPI, le CPE, le PCE et le CPI. Eh bien, ce n'est pas le cas. Vous avez tout d'abord ici le rythme mensuel du CPI sous-jacent, le core CPI. Il est depuis 5 mois à 0,20. Systématiquement, il a été sous le consensus, et notamment sur mai et juin qui est tombé la semaine dernière. Tout le monde s'attendait à du 0,3, voire du 0,4, encore 0,2. Bon, alors là, on se dit, voilà, cool, pas d'impact des tarifs douaniers. On va essayer de comprendre pourquoi, mais suivez mon raisonnement, s'il vous plaît. Ensuite, le meilleur indicateur avancé, ce sont les prix à la production, les prix sortis d'usine. Quoi de mieux que les prix sortis d'usine pour représenter l'impact des tarifs douaniers, le fameux PPI. Eh bien, le PPI est tombé la semaine dernière. Oh, incroyable, en rythme mensuel, 0. Même pas 0,10, non, 0. 0. 0. 0, la tête à Toto, 0. Alors, non, mais... C'est une anomalie, ok. Alors on va regarder la version sous-jacente. Zéro. Bah, moi, je vous donne les faits. Donc, au mois de juin, les taux d'inflation mensuels, c'est zéro. Et c'est 0,2 pour le CPI, c'est un taux du monde d'avant. Donc, il n'y a aucun impact des tarifs douaniers. Attention! Attention, n'allez pas dans les commentaires me crier dessus, Vincent, tu es trop optimiste. Écoutez-moi jusqu'au bout, même si c'est chiant et que je parle lentement. Pour le moment, il n'y en a pas d'impact. C'est vrai que le taux d'inflation en rythme annuel s'est mis à plat pour le CPI et il s'est mis à plat pour le PCE. D'accord, très bien. Alors, que se passe-t-il? Alors, effectivement, les chiffres ont été plutôt pas mal. Il y a malgré tout, au sein de l'inflation publiée en juin, certains biens de consommation et certains biens industriels qui ont leur taux d'inflation au plus haut depuis 7 ans. C'est un fait. Et lorsqu'on regarde dans le détail, directement impacté par les entreprises qui ont répercuté les droits de douane, mais ces biens en question pèsent rien dans l'inflation. Il faut avoir conscience comment on calcule un taux d'inflation. Ça, je vous ai déjà expliqué à plusieurs reprises que c'est déjà 65 à 70% de services. Donc ensuite, il reste 30% de biens, et sur ces biens, ils ne sont pas tous concernés par les tarifs douaniers. Et donc, si une toute petite partie est concernée par les tarifs douaniers, et encore, il faut que l'entreprise décide de répercuter. Car l'entreprise, elle peut décider de prendre ça, de rogner ses marges. Donc non seulement il n'y aura qu'une petite partie des biens concernés, et ensuite, les entreprises ne vont pas, dans 100% des cas, répercuter ça sur le consommateur. Parce que si le consommateur se met à moins consommer, elles perdent en volume, elles sont perdantes. Donc, vous comprenez que même si 100% des entreprises répercutaient 100% des droits de douane sur le consommateur, overall, ça n'impacterait pas plus que 15 à 20% de l'inflation. Alors, par contre, oui, effectivement, ça peut refaire bondir l'inflation peut-être de 0,3, 0,4, 0,5. Et effectivement, bah, puisque là, on est à 2,5, 2,8. Si vous rajoutez 0,5, on dépasse les 3. La Fed, elle vise 2, donc là, elle pivote pas. Donc, c'est quand même important. Mais ce que je veux dire, c'est que mathématiquement, les tarifs douaniers ne peuvent pas créer de vagues inflationnistes comme le Covid. Mais c'est juste parce que c'est nous qui avons décidé le poids des services et le poids des biens de consommation, c'est tout. Si on change la méthode de calcul, c'est différent. Vous voyez, l'homme décide de tout. On peut faire ce qu'on veut avec les chiffres. Donc voilà, mais je vous dis, il faut accepter les règles. Et alors, par contre, attention. Il y a risque. C'est le sujet de ici là. C'est le titre que j'ai mis en haut. Reporter ou écarter. Ça peut être tout à fait reporté. Pourquoi? Parce que depuis début avril, c'est 10%. Mais les gros tarifs douaniers, ceux-là, la négociation commerciale avec le Japon, l'Inde, l'UE, toujours en cours. On ne sait toujours pas si ça va être du 20, du 30, du 40. Il y a une différence entre 10 et 40. Donc, en fait, risque écarté ou reporté, bah, écarté, on ne peut pas le dire. Parce que c'est à partir du 1er août que ça va être appliqué. Et donc, si c'est appliqué à partir du 1er août, vous allez voir ça dans les chiffres de l'inflation de septembre. Donc, il faut être patient. Il est impossible de dire si c'est probablement pas écarté. Maintenant, est-ce que c'est reporté? C'est reporté si, imaginons que, en moyenne, les pays se mangent 20 à 30% de droits de douane. Si les entreprises décident, dans la majorité des cas, de reporter ça sur le consommateur, ah bah là, oui, ça va faire rebondir l'inflation. Ou en tout cas, ça va vraiment mettre la désinflation en pause. Donc la Fed ne pourra pas pivoter, sauf si le chômage augmente. Maintenant, si en moyenne, les pays partenaires des États-Unis se mangent un 20 ou 30% de droits de douane, mais que les entreprises décident de renier leurs marges et de ne pas impacter le consommateur, il n'y aura pas, l'inflation repartira au sud, la désinflation continuera. D'autre part, rappelez-vous, les services ne sont pas concernés directement. Donc, il y a deux inconnues. La première inconnue, quel sera le montant moyen des droits de douane pondéré par les échanges commerciaux entre les États-Unis et les différents partenaires. À partir du 1er août, on ne le sait pas encore, mais ce ne sera certainement pas 10, hein, superbe surprise. Et ensuite, que feront les entreprises? On oublie ça, c'est peut-être même encore plus important, le paramètre des entreprises. est-ce qu'elle répercute sur le consommateur au risque de le voir moins consommer et donc au risque d'être perdante, ou est-ce qu'elle se dit on touche pas au prix, on rogne un peu nos marges, mais au moins le consommateur continuera de consommer. Ça va être un débat propre au sein de chaque entreprise. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de facteurs. Donc, risque écarté ou risque reporté, écarté probablement pas, reporté nous ne savons pas. Donc, on ne sait pas grand-chose en fait, mais la réflexion est intéressante. Alors là, je me suis réduit tout petit. Oh, je suis ici, je suis un lilliputien. Voilà, grosso modo, la moyenne de ce que disent les économistes. Impact à envisager sur l'inflation PCE sous-jacente. Donc attention, le PCE sous-jacent est l'indice d'inflation favori de la Fed. Elle regarde que ça. Actuellement, le PCE sous-jacent, il faut avoir ça en tête. Hein. On oublie CPI, il ne sert à rien. Le PCE sous-jacent est à 2,7. D'accord ? La Fed, ce qu'elle veut, vous voyez ici que la courbe s'est mise à plat. Vous voyez très bien, ça voilà, on peut résumer l'inflation à cette courbe-là. Ça, c'est le monde d'avant que vise la Fed. Et là, c'est là où on est. Vous voyez qu'il nous manque juste un étage. Le problème, c'est la question est-ce que les tarifs douaniers vont rendre impossible au PCE Core de descendre d'un étage ? Eh bien, effectivement, ça peut être le cas. Ces tarifs douaniers peuvent maintenir le PCE Core ici. Donc juste au-dessus, mais à plat. Scénario catastrophe, ce serait de repartir en hausse. De refranchir les 2,9,3. Alors, lorsque l'on regarde un peu ce que disent les économistes, grosso modo, il y a à partir de 20-25% de droits de douane en moyenne, un vrai risque de voir le PCE Core se faire entre plus 0,3 et plus 0,6. Donc, de se maintenir au-dessus des 3%, c'est provisoire, attention, hein, c'est provisoire l'impact des tarifs douaniers. Ce ne sera pas chaque mois qu'on va se manger ça, attention. Hein, ça va être le mois en cours, et ensuite, ça se lisse dans le temps. Enfin, vous prenez le principe d'une augmentation des prix, ponctuelle, le temps que ce soit absorbé par la machine logistique. Ça se lisse. Effectivement, vous voyez ici l'importance de ce que sera le tarif douanier moyen. Il y a une époque où des rumeurs circulaient comme quoi entre les États-Unis et l'Union européenne, ce serait 10% plus des accords d'achat, l'UE s'engagerait à acheter en volume certains produits US. Ça, c'est super. Par contre, si l'Union européenne se mange un 25 ou un 30%, que c'est pareil pour l'Inde et le Japon, ça va forcément piquer. Ça va être compliqué. Alors, ce que vous avez ici, c'est l'impact des tarifs douaniers en partant du principe que les entreprises répercutent 100% sur le consommateur. D'accord ? Ça, c'est l'impact si les entreprises répercutent 100%. Si par contre les entreprises décident de ne pas impacter le consommateur et de rogner leur marge, bah, la hausse sera beaucoup moins importante. Donc il y a donc deux paramètres, le montant des tarifs douaniers et ce que feront les entreprises. Donc ça va être un débat en fait, le sujet va rester passionnant tout au long de l'été. Alors ça, maintenant on va parler d'inflation, de ce que disent un peu les indicateurs avancés, où est-ce qu'on en est, mais je voulais d'abord vous rappeler une chose. À ceux qui s'étonnent que le droit de douane de 10%, donc en juin, regardez, hein, les prix à la production en nominal en juin, 0%. Et le PPI sous-jacent en juin, 0%. Alors qu'il y a des tarifs douaniers. Pourquoi ? Première explication que je vous remonte, c'est ça. Les services écrasent tout dans le calcul mathématique des taux d'inflation, que ce soit le PCE ou le CPI. Et vous avez des catégories, notamment la catégorie immobilier, 42% du CPI, n'a absolument rien à faire des tarifs douaniers. Rien. Donc, il y a des choses comme ça qui jouent. Par contre, voilà, effectivement, dans la catégorie transport, dans la catégorie appareil ou other goods and services, qui sont quand même des catégories, vous voyez, grosso modo, on parle de 15 à 20% de l'inflation qui va être directement impactée par les tarifs douaniers. Et ensuite, donc, ces 15 à 20% de l'inflation sont impactés par les tarifs douaniers, reste à savoir si 100% des entreprises, ou que 50% ou que 10% des entreprises, impacteront ça sur les prix ou sur leurs marges. Voilà, c'est vraiment ça. C'est impacter sur les prix ou impacter sur leur marge et quelle sera la valeur finale des tarifs douaniers sur ces 15-20% du calcul de l'inflation. Tout est dit là, tout est dit. C'est à peu près le schmilblick, c'est comme ça que les... Et en fait, c'est face à cette incertitude que Jérôme Powell ne veut rien faire et que les membres, les conservateurs de la Fed ne veulent rien faire. Ils ont, dans l'absolu, ils ont raison. Hein. Alors, que nous disent les indicateurs avancés de l'inflation ? Ce que nous avons vu, c'est donc que pour le moment, il n'y a pas d'impact et que le PCE, c'est celui-là qui compte. Hein. La Fed ne va regarder que celui-là. Le PCE Core s'est mis à plat, donc ce qui est très ennuyeux pour la Fed. Et c'est dommage, hein, puisqu'on perdait encore un étage. Vous voyez, le monde d'avant n'est pas loin. Le monde d'avant n'est pas loin. Mais il n'est pas loin, mais en même temps, il est encore à une certaine distance. Alors que disent les indicateurs avancés ? Je vous les ai rassemblés ici. Shoeflation, Inflation Nocasting, Zillow Index, ça c'est l'immobilier. Alors l'immobilier, j'évacue le sujet, hyper optimiste. Et là, je viens d'avoir les tout derniers chiffres. Rappelez-vous, l'immobilier, c'est un tiers de l'inflation dans le calcul. J'ai les tout derniers chiffres, c'est fantastique. Confirmation que les nouveaux loyers sont négatifs et les loyers temps réels passent même encore à 2,91. Il faut un certain temps pour que l'inflation officielle qui est ici s'y aligne. Donc on voit qu'il y a encore du downside. Il y a encore du potentiel de baisse puisque cette inflation officielle est plutôt autour des 3. Elle est plutôt autour des 3,84. L'inflation temps réel, 2,90. Donc ça... Sur l'immobilier, il y a aucun souci, c'est optimiste. Maintenant, du côté donc de Trueflation ou Inflation Nocasting, et l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland, là, en gros, ça nous dit des inflations en pause. Donc, le PCE Core actuellement est à, le PCE Core est à 2,7, je vous ai montré, il est à 2,7. Nocasting nous dit pour cet été 2,6 et 2,7. Donc, désinflation en pause. Pas de seconde vague d'inflation, désinflation en pause. Trueflation, on oscille autour des 2%, pareil, pas de seconde vague d'inflation. Lorsqu'on regarde en détail, regardez, là, vous avez l'impact des tarifs douaniers. Voilà. Certains biens de consommation ont subi un pump dans leur taux d'inflation. Ça, vous avez directement l'impact des tarifs douaniers. Mais comme le rappelle Trueflation, le poids de cette catégorie, c'est 7%. Donc en fait, c'est ça. Il peut y avoir une envolée des taux d'inflation de certaines catégories de biens, mais si dans le calcul mathématique de l'indice d'inflation, ça ne pèse pas grand-chose, l'impact n'est pas énorme. Mais tout de même, donc alors ça, en plus, si vraiment les droits de douane, c'est du 20, c'est du 30, c'est du 40, ça va encore pumper. Hein, ça. Mais d'autres catégories majeures, notamment transport, voiture, c'est assez étonnant, mais la catégorie voiture, elle ne bouge pas. On voit vraiment les entreprises là qui sont prudentes et qui ont bien compris qu'elles ne veulent pas casser la consommation. Elles ne veulent pas casser la consommation. Alors, il y a bien sûr d'autres indicateurs. En fait, si vous voulez, il n'y a pas de sujet sur le prix du pétrole se maintient tout en bas. Aucune alerte sur le prix de l'énergie. Aucune alerte sur le prix des voitures et des appareils. Il y a un vrai sujet globalement, en fait, sur les biens de consommation de l'industrie, il y a l'industrie. Et c'est vraiment là, en fait, où il y a une alerte rouge. La bonne nouvelle, c'est que ça ne pèse pas beaucoup, enfin, pas beaucoup. Le poids est limité dans les calculs des taux d'inflation. Lorsque vous regardez la composante inflation de l'ISM manufacturier aux États-Unis, voilà, on est vraiment dans une phase de hausse. On n'est pas encore comme ce fut l'envolée de la crise sanitaire, mais il y a une incertitude là-dessus. De même, là, vous avez les anticipations d'inflation des consommateurs selon l'Université du Michigan. C'est retombé à 5, mais vous voyez qu'il y a eu ça se maintient quand même à un niveau élevé. Donc, il y a de quoi être optimiste pour certaines catégories. En gros, si vous voulez, il y a certaines catégories qui permettent d'être optimistes et qui, pour moi, me disent que dans le pire des cas, on a une désinflation en pause. Le problème, c'est qu'une désinflation en pause, avec la gouvernance actuelle, l'État, le rapport de force au sein du FOMC, il n'y a pas de baisse de taux. Alors, est-ce que la baisse de taux du mois de septembre, sur laquelle tout le monde s'accorde à dire, même les membres du FOMC, est-elle menacée ? Au stade actuel, la probabilité d'une baisse de taux de la Fed Au mois de septembre, c'est seulement 54%. Lorsque j'agrège avec ce que disent les membres de la Fed, c'est 57%. Donc là, on est sur une chance sur deux pour une baisse de taux en septembre. Je vous rappelle que la Fed, lors de la mise à jour de ses projections macro, nous a annoncé deux baisses de taux, quand bien même le corps PCE serait à 3,1. C'est elle qui le dit, regardez. Hein. Ce sont ses dernières projections macro. Elle nous annonce deux baisses de taux, quand bien même le corps PCE est à 3,1. 3,1, ça intègre les tarifs douaniers. Donc, grosso modo, la Fed nous dit qu'elle peut baisser deux fois ses taux, même si, provisoirement, le corps PCE se maintient au-dessus de 3 à cause des tarifs douaniers. Donc, il y a quand même une fenêtre de tir. C'est pour ça que moi, je pense, en plus, doubler à l'énorme pression psychologique, mentale, même physique, puisque Jérôme Powell a été convoqué par Donald Trump à la Maison-Blanche. La pression est telle, on parle du nom de son successeur. Si le nom de son successeur est connu avant, il va déjà, même s'il ne sera pas dans la Fed, il commencera à avoir une influence. Il va être pris à revers de partout. Et c'est long, mai 2026. C'est très long, mai 2026. Alors, d'après vous, je pose la question, va-t-il aller au bout sans baisser les taux? Ou va-t-il aller au bout en finissant par baisser les taux? Richard Nixon avait réussi à faire ça. Le nom du patron de la Fed à l'époque m'échappe, mais par une pression répétée, eh bien, le patron de la Fed à l'époque de Nixon avait baissé les taux. Ça va être un feuilleton. La presse US parle du drama autour de Jérôme Powell et de la Fed, mais ce sera très important à suivre. Alors, les taux longs, attention aux taux longs, hein, aux taux obligataires US, très important à surveiller, notamment le seuil des 5% sur, attention, le seuil des 5% sur le 30 ans US. Ça, je vous dis tout de suite, hein, si le 30 ans US dépasse cette zone-là, vraiment, c'est le seuil d'alerte. Si le 30 ans US dépasse cette zone-là, les marchés vont pas apprécier. La dette US commencera, elle est déjà difficile à soutenir, mais la charge de la dette va encore considérablement augmenter. Attention, c'est vraiment un seuil à surveiller en cette fin de mois. Et donc, je termine, comme bien chaque semaine, par un tour d'horizon technique pour ce bon vieil indice S&P 500. Alors, que vous dire de plus, chers amis? Mais comme d'habitude, alors je vous ai fait un point complet dans le top gain de la semaine dernière sur les objectifs techniques. Donc, vous pouvez reprendre le top gain de la semaine dernière où j'ai été très précis sur ce qu'on peut viser d'ici la fin de 2025. Pas de divergence en weekly, même s'il y a de la place pour retracer. Même si, dans un premier temps, on reteste, imaginons. Même si on revient tester la zone support, elle est entre 6100 et 6166. La tendance reste haussière. C'est très bien de se mettre en pause, d'attendre les moyennes mobiles, d'attendre les supports dynamiques du système Ishimoku. Peut-être faudra-t-il bientôt retester la Kijun ou tester le Kumo. Mais overall, au-dessus de cette importante zone support des 6100-6166, la tendance de fond reste haussière. Les corrections court terme ne sont pas faites pour durer. Et assez vite, les supports peuvent agir et tendre vers des cibles techniques que je vous ai proposées avec détail dans le top gain de lundi dernier. Je vous invite à le reprendre si vous ne l'avez pas fait. Son titre est explicite. Que peut-on viser? 6003, 6005, 6007. Ça peut vous intéresser. Vous n'êtes pas assez nombreux à l'avoir regardé. Je suis déçu. Je suis très déçu. Donc voilà. Donc ça, vous pouvez reprendre ça. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'euphorie. Même le réservoir des vendeurs, c'est à nouveau rempli. Tant qu'il y a du doute sur la hausse, les corrections ne dureront pas longtemps. Tant qu'il y a du doute et une absence de participation, les tops se font dans l'euphorie. Donc, tant qu'il y a du doute, les corrections court terme, c'est juste des retours sur support et ça repart. Pareil, il n'y a aucune euphorie d'un point de vue quantitatif. Nous ne sommes toujours pas dans la zone rouge en termes du pourcentage d'action du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Chers amis, j'espère que cette nouvelle édition du Top Gain vous a plu. Et quant à moi, je vous remercie pour l'écouter.